France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto in la radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, un jour en Iran ce soir.
L'actualité, c'est encore deux Français arrêtés en Iran. Paris exige leur libération immédiate. Les circonstances de leur arrestation restent assez floues, accusés d'avoir cherché à déstabiliser le pays.
Depuis cette annonce, ils ont passé 1095 jours dans les geôles iraniennes. Ça fera 3 ans demain que les Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont enfermés dans la prison d'Evin près de Téhéran, prison à la sinistre réputation. 3 ans d'enfer sur une décision arbitraire, une accusation d'espionnage on ne peut plus floue. Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot estimait que leurs conditions de détention étaient indignes et assimilées en droit international à de la torture. La France, qui les considère comme des otages d'État, fait ce soir de leur libération une priorité absolue. D'autres Occidentaux sont régulièrement arrêtés et emprisonnés de la même manière. L'Iran s'en sert ensuite de moyens de pression, voire de monnaie d'échange. Avec nous, Noémie Kohler, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la sœur de Cécile Kohler. Et près de vous, Shirin Ardakhani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée en droit des étrangers, en droit pénal, et vous faites partie de ceux qui défendent justement Cécile Kohler. D'abord, Noémie, quelle nouvelle avez-vous de votre sœur ?
Alors, la dernière fois qu'on l'a eue au téléphone, c'était hier matin. Donc, c'est mes parents qui ont pu la voir. Donc, ça a été, comme d'habitude, une visio WhatsApp de 8 minutes qui s'est déroulée sous haute surveillance. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, ni pour elle, ni pour Jacques. Ils sont vraiment à bout de force. On sent vraiment leur désespoir de plus en plus grand appel après appel. Ma sœur nous a dit qu'elle écrivait des poèmes dans sa tête et qu'elle se les récitait tous les soirs pour ne pas les oublier, ce qui nous a confirmé qu'au bout de 3 ans, elle n'avait même pas de quoi écrire. Voilà, on sent vraiment que c'est extrêmement difficile pour eux. Il y a aussi cette question du verdict extrêmement sévère qu'on leur annonce depuis plusieurs mois en leur fixant des échéances très floues mais qui ne se réalisent jamais. Donc une pression psychologique extrêmement violente qui continue d'être vraiment exercé sur eux. Donc voilà, c'est très difficile.
Ça doit être, j'imagine, assez rare d'avoir un contact avec elle, en fait.
C'est très rare, c'est très aléatoire. C'est en moyenne moins d'une fois par mois. On ne sait jamais quand elle va appeler. Et voilà, ce sont des visios qui se déroulent sous haute surveillance. Donc, il y a vraiment une tension.
Donc, elle n'est pas libre de sa parole ?
Absolument. On s'est rendu compte très, très vite que, en fait, elle ne pouvait pas parler librement de ses conditions de détention et de son état de santé.
Et justement, qu'est-ce que vous savez, vous, actuellement, de ces conditions de détention? On a dit qu'ils avaient passé, Cécile et Jacques, plusieurs mois à l'isolement.
Ouais,
ce qui est contraire d'ailleurs aux règles des Nations Unies, hein, c'est considéré comme de la torture.
Absolument, donc ils ont fait plusieurs mois d'isolement cellulaire complet. Aujourd'hui, ils sont toujours en section 209, une section de haute sécurité. Ils sont chacun dans une cellule d'environ 8 mètres carrés, sans fenêtre, éclairée 24 heures sur 24, dont ils ne peuvent sortir que 3 fois par semaine pour prendre l'air et voir la lumière du jour. En fait, pendant des sorties de 30 minutes dans une cour, ils n'ont pas de meubles, donc ils dorment à même le sol sur des couvertures, et ils n'ont absolument aucun contact avec l'extérieur de la prison, à part ces rares appels qu'ils peuvent nous passer de manière aléatoire.
Je le disais, Shirin Ardakhani, c'est assimilé à de la torture.
Oui, tout à fait. Ce sont des traitements inhumains et dégradants au sens du droit international. Et par ailleurs, Noémie Kohler l'évoquait, le fait de soumettre les personnes détenues et arbitrairement privées de leur liberté à cette torture psychologique, cette menace d'un verdict qui n'arrive pas. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur le fait que Cécile et Jacques aient été même traduits devant un juge.
C'est ce que j'allais vous dire. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu de procès. En tout cas, on n'a pas su s'il y avait
eu de procès. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de garantie d'un procès équitable aujourd'hui. Ils n'ont pas accès à l'avocat de leur choix. Ils ont désigné des avocats iraniens par ailleurs. Ils n'ont pas pu s'entretenir avec eux. Donc les avocats par ailleurs qui sont des avocats qui ont été désignés d'office par l'État iranien, en réalité, n'ont pas pu s'entretenir avec leurs clients ou en tout cas être en mesure de pouvoir les assister utilement. Donc il n'y a pas aujourd'hui de procès équitable. Il n'y a pas de droit de la défense. Ils ont eu connaissance très tardivement d'ailleurs des charges pour lesquelles ils sont accusés. Donc aujourd'hui, il y a un flou absolument complet sur ces garanties procédurales.
Et quelles sont ces charges aujourd'hui exactement? Parce qu'on parlait très vaguement d'espionnage, Noémie.
Bah, ils sont accusés d'espionnage, ils sont présentés comme des espions. Voilà.
Ce qui veut tout dire et rien dire, en fait.
Alors, par ailleurs, sur les circonstances qui ont amené justement à ces charges, quand on parlait tout à l'heure de la torture, il y a des aveux forcés qui ont été obtenus, donc très certainement sous l'usage de la contrainte.
Et qui ont été diffusés sur la télévision iranienne.
Et qui ont été diffusés sur la télévision publique iranienne, dont on sait d'ailleurs que, malheureusement, c'est un usage très courant qui est fait. Ce sont en réalité des journalistes interrogateurs bourreaux qui vont extorquer de la part des personnes qui sont arbitrairement détenues des aveux. Et donc c'est à cette occasion que nous avons même compris que les accusations étaient très graves, parce qu'en Iran, être accusé d'espionnage, ça peut vous valoir une peine de prison effectivement très très importante. Voilà.
Et il n'y a pas de visite consulaire, ou quasiment pas, Noémie ?
Il y en a très peu. Aujourd'hui, on en a eu quatre visites consulaires. La dernière date du 15 avril. Quatre en trois ans, ce qui est extrêmement peu. Les conditions dans lesquelles elles se déroulent sont tout aussi problématiques. La dernière a duré 10 minutes pour chacun et s'est déroulée sous haute surveillance, avec interdiction d'évoquer des sujets comme par exemple la procédure judiciaire, ce qui est une violation en fait de la Convention de Vienne, puisque un des buts des visites consulaires, c'est d'assister le détenu dans sa défense.
Alors justement, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé début avril que la France allait porter plainte devant la Cour internationale de justice pour violation du droit à la protection consulaire. Où en est-on, Shirin Ardakhani, et qu'est-ce que ça changerait ?
Écoutez, à notre connaissance, à date, il n'y a pas encore eu de saisine, mais encore une fois, je parle sans avoir tout à fait les éléments. En tout cas, ils ne sont pas publics et connus. Nous, ce qu'on attend, et côté famille, je crois, c'est que cette déclaration d'intention se poursuive en acte. Je crois qu'il y a plus qu'urgence après 3 ans de détention. Il faut que l'État français exige que cette convention, on parlait de la Convention de Vienne, soit respectée, et ça permettrait de mettre au banc des nations finalement l'État iranien à ses responsabilités, et de rappeler qu'il n'y a pas d'impunité possible, et surtout d'appeler à une réponse de la part des autorités iraniennes qui n'assument pas ça.
Qu'est-ce que ça changerait sur leurs conditions de détention ?
Alors, moi, je crois que tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que ça participe aussi à un rapport de force entre les États, de pouvoir saisir la justice internationale, et encore une fois, de pouvoir obtenir des explications officielles de la part de l'État iranien, qui aujourd'hui ne reconnaît pas et n'assume pas le caractère arbitraire de cette détention. Dans le logiciel de l'État aujourd'hui iranien, cette détention est parfaitement justifiée. Et donc, ça permettrait au moins de pouvoir avoir une position publique exprimée, au moins par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire devant la Cour internationale de justice.
Alors, on parle souvent d'otages d'État et pas de prisonniers politiques. Quelle est la différence ?
En droit, en réalité, il n'y a pas tellement de différence sur le fait qu'il y a une détention qui est arbitraire, dans le sens de la Convention internationale sur la prise d'otages de 1979, qui finalement est le fait par quiconque, donc un État ou des groupes d'ailleurs para-étatiques, de détenir arbitrairement une personne en vue d'une contrepartie via un tiers État. Et en l'occurrence, cet État, c'est l'État cible, c'est-à-dire l'État français. Donc c'est l'opération qui consiste pour l'État iranien d'utiliser en réalité une détention pour exercer un chantage, une forme d'extorsion, et qui vise à des concessions réciproques auprès de l'État français.
Alors, il y a 3 semaines, l'Union européenne a imposé des sanctions à 7 fonctionnaires iraniens des services pénitentiaires et judiciaires pour ce que les 27 considèrent comme une campagne de détention de citoyens européens motivée par des considérations politiques. Alors, il y a eu gel des avoirs, interdiction de voyager, dont le responsable de la prison d'Evin, justement. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose ? Ou est-ce que c'est surtout symbolique et qu'on est dans un bras de fer, donc on utilise tout ce qu'on peut ?
Nécessairement que ça va dans le bon sens. Toutes les sanctions de toutes les natures, juridiques, économiques, politiques, symboliques, sont les bienvenues. Là, aujourd'hui, je crois que la juriste que je suis, ce qu'on demande, c'est que le dossier de Cécile et Jacques devienne la priorité numéro 1 de l'État français, et que tous les services de l'État soient mobilisés. Et donc, tous les moyens sont bons. Il faut juste que ce dossier devienne la priorité nationale, et que les intentions qui sont allées dans le bon sens, les familles ont été reçues reçu par le chef de l'État, puis le ministre Barrot. Mais je crois que là, il faut véritablement que tout cela se traduise en actions concrètes. Mmh. Et donc la voie judiciaire en est une, c'est pas la seule, et la voie politique, évidemment, en est une.
Alors, Olivier Grondeau, un autre otage français dont vous étiez l'avocate, Shirin Ardakhani, est rentré, lui, en mars. Il avait été arrêté en octobre 2022 alors qu'il effectuait un tour du monde, un peu d'ailleurs comme votre sœur, hein, Noémie, mm-hmm. et comme Jacques Paris. Ils étaient en touriste, hein, en Iran, lorsqu'ils ont été arrêtés. Il avait pris la parole, Olivier Grondeau, en début d'année, une tribune dans le journal Le Monde, un témoignage qu'on avait diffusé ici sur Radio France. Il a été libéré quelques semaines plus tard. Les autorités, aujourd'hui, Noémie Kohler, vous incitent à vous taire, mais au contraire, est-ce qu'il ne faut pas prendre la parole plus haut et plus fort ?
Alors aujourd'hui, de la part des autorités françaises, il y a eu un changement un changement, on va dire, à notre égard sur la question de la communication. Donc aujourd'hui, effectivement, on y va, on communique à fond. Nous, c'est vrai qu'on se bat depuis 2 ans et demi pour qu'on en parle le plus possible. Et voilà, tous ces événements qui ont eu lieu en janvier, donc notamment la prise de parole d'Olivier, on se rend compte que ça a mis la mobilisation dans une autre dimension et qu'on a beaucoup plus d'écho et de visibilité.
Donc il y a un changement de paradigme en ce moment au niveau diplomatique, Shirin Ardakhani.
Oui, je crois que non seulement c'est nécessaire, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre voie possible. La mobilisation dans l'opinion, c'est toujours ce qui fait reculer les États ravisseurs, parce qu'il y a un coup politique pour l'État iranien. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le régime de Téhéran, il est engagé dans une stratégie de normalisation au plan international. Et à chaque fois,
des États-Unis,
voilà, notamment vis-à-vis des négociations en cours avec l'administration Trump. Et donc à chaque fois qu'il y a une mobilisation qui se crée dans l'opinion, à grand renfort d'ailleurs des comités de soutien qui se mobilisent. Je rappelle que demain d'ailleurs le comité de soutien, peut-être que Noémie Kohler en parlera, organise des rassemblements dans toute la France, et je crois que c'est cette pression de la société civile qui incite d'ailleurs même nos propres gouvernements à faire de ce dossier la priorité. Donc il faut toujours se mobiliser, je crois.
Mais vous pensez que les négociations justement en cours entre les États-Unis et l'Iran, notamment sur le nucléaire, ça peut être un signe de détente et ça peut profiter justement à ces otages d'État ?
Alors ça, je saurais pas vous le dire. Moi, ce que j'attends, en tout cas en qualité de conseil de la famille, c'est que le gouvernement français soit concentré, mobilisé sur une seule issue. C'est que il faut que Noémie Kohler et Jacques Paris sortent, quels que soient les moyens. Et après, nous, évidemment, on n'est pas diplomates. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la médiatisation, le fait de libérer la parole de tout le monde sur ce sujet, aide à la libération de Cécile et Jacques.
Noémie, comment vivez-vous cette attente ? Votre vie, finalement, elle est un peu entre parenthèses depuis 3 ans ?
Oui, absolument. Elle est vraiment en suspens. C'est quelque chose qui, c'est un poids qui pèse très lourd. On est vraiment angoissé au quotidien. C'est la première chose à laquelle on pense le matin, la dernière chose à laquelle on pense le soir. Donc c'est vrai que c'est fatigant, c'est vertigineux, 3 ans. Mais on reste déterminé à se battre jusqu'au bout pour obtenir leur libération.
Une dernière question, Shirin Ardakhani, parce que vous êtes aussi l'avocate de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, militante féministe qui tient tête au régime iranien avec un courage remarquable. Elle a été libérée sous surveillance en décembre dernier pour des raisons de santé. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est toujours libre ?
Oui, Narges Mohammadi, fort heureusement, est toujours libre. Et vous voyez, je fais un parallèle avec la situation de Cécile. Pourquoi ? Parce que le quartier des femmes dans la prison d'Evine, elle se trouvait d'ailleurs dans la même prison, malgré les difficultés et les difficultés de la détention, il y a toujours cette vie qui continue. Les femmes continuent de se battre. Cécile Kohler fait partie, je crois, de ces femmes qui a cet esprit de résilience. Et d'ailleurs, tout son parcours l'a montré. Et Narges Mohammadi, d'ailleurs, est intervenue sur vos antennes il y a quelques mois pour rappeler à quel point Cécile était certes dans un état de désespoir, mais que malgré tout il y avait cette solidarité entre les prisonnières qui s'exprimaient, d'ailleurs qu'elles soient iraniennes, françaises, parce que finalement elles ont un destin commun, toutes ces femmes. Elles ont été arbitrairement privées de leur liberté et elles se sont battues mentalement, finalement pour briser cette terreur qu'ont voulu imposer leurs geôliers. Donc Narges Mohammadi va bien. Pour le moment, elle est encore en détention. Enfin, elle est en liberté provisoire. On ne sait pas, et c'est là encore tout l'arbitraire de ce système iranien, on ne sait pas quand est-ce qu'elle réintégrera sa cellule, mais pour le moment, chaque jour, elle l'utilise pour continuer son combat.
Merci, merci à vous deux, Noémie Kohler, merci Shirin Ardakhani. On rappelle que ça fera 3 ans demain que Cécile Kohler et Jacques Paris sont détenus par le régime iranien. Des rassemblements de soutien sont organisés dans toute la France, d'Albi à Brest, de Colmar à La Rochelle, en passant bien sûr par Paris. Merci à vous deux.
Merci, merci beaucoup.
Pour vous accompagner jusqu'à 19h ce soir par ordre d'apparition dans vos oreilles, Kevin Dufraîche sous les radars.
En Chine, un nouveau héros national, champion du monde de snooker.
Le Monde à 18h50, bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Emmanuel Macron reçoit demain le président syrien qui peine à rassurer les Occidentaux.
Et comme tous les mardis, Caroline Gillet au pays des 27. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Christelle.
Vous nous entraînez ce soir dans les coulisses de l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur.
Oui, qui ne fait pas l'unanimité. Vanessa Mock travaille pour la commission sur le dossier depuis l'Uruguay et elle nous envoie des notes vocales.
Pour l'instant, nous partons vers la Floride. Voici Dochi, que l'on surnomme Swamp Princess. Et peut-être d'ailleurs que cet air vous dit quelque chose. Anxiety en playlist sur Inter.
Attends, mais il n'y a pas de pose de plaque murale.
Le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène en Côte d'Ivoire, en plein adressage. Comme dans les petites communes de France en ce moment, on baptise certaines rues, mais on en rebaptise aussi. Près de 65 ans après son indépendance, le pays prend un peu plus de distance avec la période de la colonisation française. Dans la capitale, par exemple, le boulevard Valéry-Giscard d'Estaing s'appelle désormais boulevard ou foie de Boigny. Les noms français sont presque tous remplacés par ceux de personnalités ou par des symboles des valeurs ivoiriennes. Le projet concerne cette année 14 000 rues, avenues et boulevards d'Abidjan. La suite, eh bien, c'est notre correspondant Youen Gourlet qui la raconte.
Dans la commune de Marcory à Abidjan, des dizaines d'ouvriers posent poteaux blancs et plaques vertes, orange ou bleues. Fini le boulevard de Marseille ou le boulevard François Mitterrand, place au nom de femmes et d'hommes politiques, de sportifs et d'artistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Ce matin-là, nous sommes dans la nouvelle avenue Léopoldine Thiès-en-Koffi en compagnie de Solange Niamke, coordinatrice de la centrale d'adressage pour le compte du Bénet, le Bureau national d'études techniques et de développement. Elle se dit fière de ces nouvelles rues.
J'avoue que ça me fait vraiment plaisir d'avoir le nom de nos contemporains, des personnalités ivoiriennes sur les rues de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'on a toujours souhaité, c'est ce que la population a toujours demandé et nous voyons que cela est une réalité aujourd'hui, ça nous fait plaisir.
Sur chaque plaque, un petit QR code permet même de mieux connaître l'histoire de la personnalité.
À terme, quand on activera le QR code, Léopoldine Tiezan Kofi, vous verrez la description, c'est-à-dire une petite description de qui elle était. Donc ça va permettre aux enfants, à la population de connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire au travers de ce panotage.
Si l'État ivoirien préfère parler de réappropriation de son histoire, les activistes y voient là une décolonisation des rues. Serge Nyangon est président d'Ivoire Black History Month, un événement annuel qui promet l'histoire et le patrimoine ivoirien. Il nous explique, livre d'histoire à l'appui, comment les colons français ont nommé certains axes d'Abidjan.
Les colons ont eux-mêmes imposé le nom des rues avec les figures qui les représentent eux. La commune du Plateau, qui était en fait la ville blanche, l'histoire montre que lorsque les colons prennent cette ville comme la ville blanche, ils vont en fait nommer les différentes avenues avec le nom de colons, qui sont souvent des gens qui ont commis des massacres sur les territoires ivoiriens, notamment le célèbre Nogues qui a tué près d'un millier d'Africains au niveau de la zone de Rubino qui porte son nom au niveau du plateau. Et par ailleurs, en fait, le livre nous montre que si au plateau, on a le nom des Européens dans toute la cité, le quartier qu'ils appellent le quartier nègre, le quartier de Trècheville par exemple, là en fait ils se sont dit, bon, on va pas donner le nom de quartier à des nègres, on va plutôt numéroter. Donc actuellement à Trècheville, c'était en fait rue 12, avenue 15, et ils ont évité en fait de nommer les rues avec le nom des Africains. Et le nom des rues est une initiative mémorielle hyper importante, hyper efficace. C'est un moyen par lequel on peut avoir une souveraineté identitaire.
Sur ces 14 000 noms de rue, plus de 30% sont des femmes. Parmi elles, Constance Yahi, pionnière du féminisme en Côte d'Ivoire, touchée d'avoir une rue à son nom.
Je ressens des sentiments multiples. La fierté, c'est vrai, parce que je ne suis pas habituée à voir dans mon pays des noms de femmes donnés à des rues en dehors de femmes illustres comme les épouses d'eux. Une femme qui existe, qui s'est faite par elle-même et dont le nom est donné à une rue, il n'y en a pas des masses. C'est une très grande reconnaissance. Au niveau de nos rues, il y avait beaucoup de noms de colonialistes. Ça faisait mal que des gens qui ont assujetti notre peuple, que ces gens-là portent les rues les plus belles, les plus grands, des gens qui ont méprisé même les Africains et tout ce que nous représentons, qui ont justifié le colonialisme et la colonisation. C'est avec fierté, oui, que je vois des noms de compatriotes sur les rues aujourd'hui. Oui, nos rues ont été décolonisées.
Pour les militants ivoiriens, le travail de décolonisation de l'espace public n'est pas encore terminé. Deux noms liés à la colonisation française devraient rester sur les plaques, celui de Charles de Gaulle et de l'ancien administrateur colonial André Latry. Et des communes portent encore le nom de colons français.
Reportage à Abidjan, signé Youen Gourlet. Sous les radars, c'est avec Kevin Dufraîche.
It reflects our commitment to build a government that is ethical, responsive.
Nous sommes d'abord au Ghana, où le président aime tenir ses promesses.
Et montrer l'exemple, John Mahama est en poste depuis 4 mois après avoir remporté l'élection présidentielle grâce à un axe principal, la lutte contre la corruption. D'où la présentation hier d'un code de bonne conduite à l'intention de tous les fonctionnaires et particulièrement ceux qui occupent une fonction politique. Une des mesures principales de ce code, l'obligation de déclarer son patrimoine et tous ses avoirs. Les ministres et leurs collaborateurs avaient jusqu'au 31 mars pour le faire, mais 40 d'entre eux ne s'y sont pas pliés. Sanction immédiate, le président ghanéen a annoncé hier qu'ils écopent d'une amende équivalente à 4 mois de salaire, dont un mois reversé automatiquement à un fonds pour la recherche médicale. Et John Mahama menace, ceux qui n'auraient toujours pas fait leur déclaration d'ici demain soir seront immédiatement démis de leur fonction. C'est radical. Les associations anticorruption du pays saluent la mise en place de ce code. Un portail public va voir le jour pour permettre aux Ghanéens de signaler d'éventuels manquements à ce code.
Le vice-ministre de Seguridad confirmó la aprehension de la juge Lilia Moreno.
Voici en Bolivie avec une arrestation.
Oui, je vous parlais ici même la semaine dernière de la décision d'une juge d'annuler le mandat d'arrêt et donc l'abandon des charges contre Evo Morales, l'ancien président poursuivi pour traite de mineurs. Eh bien, cette juge, Liliane Moreno, a été arrêtée hier. Elle est en garde à vue. Le ministère de la Justice estime qu'elle s'est rendue coupable de manquement à ses devoirs, arrestation dénoncée comme illégale et arbitraire selon son avocat. Nouvel épisode dans la bataille politico-judiciaire autour du sort d'Evo Morales qui veut se présenter lors de la présidentielle du mois d'août, quand bien même la Constitution lui interdit puisqu'il a déjà fait deux mandats. L'affaire pour laquelle il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, c'est le parquet qui l'accuse d'avoir entretenu une relation avec une mineure de 15 ans, ce qu'il nie. Il estime que c'est une cabale judiciaire lancée par son successeur, le président Louis Sarcé, issu du même parti que lui. Il est depuis octobre retranché chez lui dans le centre de la Bolivie. La police n'a encore jamais essayé de l'interpeller.
Enfin, nous sommes en Chine, qui tient un nouveau champion.
Oui, il s'appelle Zhao Xintong, il a 28 ans et il a été sacré hier champion du monde de snooker, une variante du billard. Et c'est un événement historique parce que c'est la première fois qu'un joueur asiatique est sacré chez les hommes. Dites-vous que depuis que ce championnat existe, depuis 1927 donc seulement, deux champions du monde ne sont pas britanniques ou issus d'un pays du Commonwealth. Un Irlandais, Ken Doherty, en 1997, et il y a deux ans, le Belge, Luca Bressel.
I can't believe that. Yeah.
Je n'arrive pas à y croire, a réagi le jeune homme qui a battu un triple champion du monde. D'ailleurs, enveloppé dans le drapeau chinois hier soir à Sheffield, au lieu du snooker au Royaume-Uni, Zhao Xintong a une trajectoire assez incroyable. Il s'est inscrit à ce championnat du monde. En tant qu'amateur, il est passé par le tournoi de qualification parce qu'il a perdu sa licence professionnelle depuis sa participation à un vaste scandale de triche il y a deux ans, reconnu coupable d'avoir aidé un autre joueur à truquer deux matchs et d'avoir parié sur ces mêmes rencontres. Il a écopé de 20 mois de suspension. Le voici champion du monde.
Une belle histoire de rédemption. Merci Kevin. Vous partez sur un hymne aux beaux jours et à l'espoir, un classique. Ella Fitzgerald, 1969. Sunny, un peu de soleil sur Inter. Repris une centaine de fois, notamment par Cher, Bonnem ou encore Eddie Mitchell. Le Monde à 18h50.
How dare you? The world has changed.
Christelle Rebière.
Le 18-20.
C'est sa première visite en Occident. Le président syrien Ahmad al-Shara sera accueilli demain par Emmanuel Macron à Paris. Ce soir, vous nous dites, Franck, pourquoi ce dirigeant peine à donner des gages de liberté et de stabilité dans son pays ?
C'est l'obsession d'Ahmad al-Shara depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre. Convaincre les Occidentaux que son régime se veut ouvert, inclusif, respectueux des minorités. Il faut donc lever les sanctions internationales contre Damas. Elles sont caduques. Qu'elle visait un pouvoir tyrannique tombé il y a 5 mois. La Syrie ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Nous avons besoin d'aide. Voilà le discours d'Ahmad al-Shara. La France est prête à l'entendre. C'est la raison pour laquelle elle sera le premier pays occidental, en effet, à recevoir le dirigeant syrien. Demain, elle a déjà organisé en février une conférence sur la reconstruction de la Syrie.
Mais les violences des dernières semaines ne rassurent pas les diplomates.
Deux actualités, Christelle, ont mis en lumière l'incapacité du régime syrien à contenir ces factions les plus extrémistes. D'abord, en mars, des groupes affiliés au pouvoir de Bachar al-Assad ont lancé une rébellion sévèrement réprimée sur la côte ouest de la Syrie. Des massacres ont fait au moins 1700 morts dans la communauté alaouite, minorité dont est issue la famille Assad. Et plus récemment, au sud de Damas, des affrontements entre des groupes armés liés au pouvoir et des combattants druzes ont fait une centaine de morts. Israël, qui y voit la preuve de la dangerosité du nouveau régime syrien, a mené une frappe vendredi dernier près du palais présidentiel à Damas. L'ONU et plusieurs pays ont d'ailleurs dénoncé une violation de la souveraineté de la Syrie.
Et les promesses de sécurité et de stabilité de la Syrie ne sont donc pas tenues ?
Ahmad al-Shara n'est pas le seul responsable. Israël, par exemple, a renforcé sa présence en Syrie après la chute d'Assad et le retrait des milices pro-Iran, et ne veut surtout pas d'un voisin fort sous l'influence désormais de la Turquie au nord. Le président syrien par intérim est aussi confronté à une économie laminée par la guerre. Mais il peine à convaincre quand il promet une Syrie ouverte, inclusive. Il n'a nommé que 4 ministres issus des minorités au sein du gouvernement. Un druze, un kurde, un alaouite et une chrétienne, la seule femme. Les 19 autres membres sont tous des sunnites, dont beaucoup de fidèles. Ahmad al-Shara ne parvient pas à faire oublier son passé de djihadiste fondateur du front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. C'est un homme qui a du sang sur les mains, qui Emmanuel Macron recevra demain à l'Élysée.
On ne peut donc pas lui faire confiance ?
Alors, il est encore un peu tôt pour répondre à cette question, mais les violences récentes nourrissent l'inquiétude. La minorité kurde, qui vit en quasi-autonomie dans le Nord-Est, craint d'être à son tour une cible. Damas aurait d'ailleurs nommé un criminel de guerre accusé d'exaction contre les Kurdes, commandant de l'armée dans l'est du pays, un très mauvais signal pour les discussions entre le pouvoir et les Kurdes. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont levé quelques sanctions, mais demandent des gages plus sérieux aux autorités syriennes. Les États-Unis se montrent plus prudents encore et exigent, je vais y arriver, des engagements démocratiques fermes. La France, elle, veut accorder sa chance à Ahmad al-Shara. Elle prend le risque de lui donner une légitimité que son régime ne mérite pas.
Et sa polémique déjà. Merci Franck.
France Inter, le 18-20.
Caroline Gillet, chaque mardi, vous ouvrez pour nous les portes des bureaux de celles et ceux qui travaillent pour l'Union européenne. Et aujourd'hui, elle s'ouvre, cette porte, sur un bureau au 12e étage d'une tour de Montevideo en Uruguay.
Oui, c'est de là que me parle Vanessa Mock. Elle y est en charge du commerce et de l'économie pour la Commission européenne. L'Uruguay est un des 4 pays du Mercosur. La Commission vient de signer avec la région un accord de libre-échange. Maintenant, il faut convaincre les 27. Dans le dernier épisode, on entendait une militante opposée à cet accord qui permettrait de faciliter les exportations en supprimant certains droits de douane, mais en contrepartie, il y aurait plus d'importations sud-américaines, notamment du bœuf produit dans des méga-fermes locales, et ça pourrait menacer le secteur agricole français. Pour me raconter sa perspective pro-accord donc, Vanessa Mock a accepté de m'envoyer des notes vocales, notamment celle-ci.
Je suis en route vers le travail, mais j'ai fait un petit détour pour vous faire écouter la mer. En fait, c'est pas la mer, c'est le Rio Plata, la grosse rivière en fait qui devient l'océan Atlantique. Mais après, sur ma droite, il y a le gros port de Montevideo et on voit toujours des cargos qui viennent bien sûr aussi de l'Europe, mais aussi beaucoup de petits bateaux de pêche.
Et le port est donc vraiment géré par des entreprises européennes. Et il est en train de grandir et il y a beaucoup de projets d'expansion pour le port.
Je lui demande ce qu'elle a trouvé le plus surprenant en arrivant sur ce poste et dans ce pays il y a 7 mois.
Je pensais par exemple qu'il y aurait une influence beaucoup plus importante par exemple des États-Unis, mais ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est l'Europe. Ils regardent beaucoup nos normes sanitaires, environnementales. C'est un pays vraiment qui se projette vers l'Union européenne.
J'essaie de comprendre en quoi consiste son travail. Sur son profil LinkedIn, je vois qu'elle visite des entreprises, Volkswagen par exemple, et des pays voisins, le Paraguay, l'Argentine.
Mon job à moi, c'est d'améliorer tout ce qui sont nos relations commerciales. Et l'autre partie, bien sûr, c'est aussi voir un potentiel accord Union européenne-Mercosur.
En décembre, elle est en photo dans le port de Montevideo avec Ursula von der Leyen, qui était de passage pour conclure l'accord.
Alors, je sors de la chambre de commerce franco-uruguayenne. Elle date de 1882 et elle est aussi en faveur de l'accord Union européenne-Mercosur. Voilà, je rentre dans un taxi pour retourner au boulot.
Il y a énormément d'opportunités aussi pour les agriculteurs européens avec cet accord. Donc, par exemple, beaucoup de plus de 350 produits d'indication géographique qui seront protégés. Donc, par exemple, le comté, le Côte-du-Rhône. Et si jamais il devrait avoir des inquiétudes sur des distorsions de marché, on appelle ça. Il y a aussi un mécanisme qui est prévu dans l'accord, ce qui voudrait dire qu'on pourrait dire stop, doit re-regarder l'impact sur nos propres marchés, justement pour protéger aussi nos secteurs. J'entends beaucoup cette parole toujours, c'est quelque chose qui est imposé par Bruxelles, etc., etc. Enfin, c'est un accord sur lequel la Commission européenne a été en lien constant, je pense, avec les capitales européennes. Et tout ce qui a été négocié était en étroit lien avec les États membres.
Vanessa a l'habitude de communiquer sur ce type d'accord. Après avoir été journaliste, notamment pour le Wall Street Journal, elle est devenue porte-parole de la Commission européenne. Elle était à ce poste, notamment, juste avant le référendum du Brexit.
Et c'était vraiment très déprimant, je dois dire. Une grande partie de mon travail à l'époque, c'était contacter les médias britanniques pour leur dire, en fait, ceci n'est pas correct, ceci n'a rien à voir avec ce que fait l'Union européenne. Ça, c'est des informations fausses. Vouliez-vous, s'il vous plaît, corriger vos articles?
Et puis un jour, un 1er avril, elle a voulu faire une blague.
J'avais fait un poisson d'avril sur le fait que l'Union européenne voulait faire des préservatifs, imposer des normes européennes sur les préservatifs, donc une taille unie, avec même des logos de l'Union européenne dessus, etc., etc. Et c'était un petit peu trop convaincant, trop convaincante finalement.
Est-ce que, tout en étant favorable à l'idée du commerce, est-ce qu'on ne se dit pas que ces traités de libre-échange, ils sont un petit peu désuets à un moment où l'idée, ce n'est pas forcément que les marchandises elles parcourent des milliers de kilomètres, peut-être qu'elles peuvent produire plus local, pour justement aussi ne pas être dépendant de marchés extérieurs si jamais il y a des problèmes.
On a besoin de la globalisation. On peut essayer de limiter ça et d'essayer de cultiver le plus possible, de développer nos propres industries le maximum possible, mais on doit quand même travailler à l'échelle globale. C'est comme ça l'économie actuelle. Après, c'est la question de voir avec qui est-ce qu'on travaille. Et si on regarde l'Union européenne, je pense que c'est important d'approfondir les relations qu'on a, d'avoir vraiment des alliés démocratiques dans le monde. Et il n'y en a pas tellement que ça, finalement.
Dans un message juste après, elle me parle d'un livre.
Qui date de 1907, 25e anniversaire de la Chambre de commerce française de Montevideo. Donc les Français, c'était 30% de la population de Montevideo au 19e siècle. C'est quand même énorme. Et voilà, il y a tous les produits qui venaient de la France ici, beaucoup d'importations. Alors ça part de petits pois au riz jusqu'aux oignons, les vins. C'est vraiment fascinant. Des voitures, des matériaux industriels, des batteries de cuisine.
Voilà, et on va continuer à suivre ici les prochaines étapes de cet accord avec vous.